Fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, sachant que le Père lui avait fait don de tout, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait retourner vers Dieu, se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Après quoi il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, au grand jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répliqua, « Si je ne te lave pas les pieds, c'en est fini entre nous. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui vient de se baigner n'a besoin que de se faire laver les pieds, car il est absolument propre. Vous aussi, vous êtes purs. » Pas tous, cependant. Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il lavait les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez le maître et le Seigneur, et vous le dites juste. » Je le suis en effet. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour qu'à votre tour vous fassiez comme je vous ai fait. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Une fois encore, le Seigneur nous fait la grande grâce de participer à sa sainte scène, prélude à la nuit de sa passion. L'évangile de Saint Jean, chapitre 13, que nous entendrons chaque année le jeudi saint, nous relate le lavement des pieds et le stupéfiant dialogue de Jésus avec ses disciples à ce sujet, et singulièrement avec Pierre. Nous nous rappelons la lourde tâche que le maître a confiée à ce dernier, à Césarée de Philippe. Telle que nous la rapportent les trois autres évangélistes, Matthieu au chapitre 16, Marc au chapitre 8 et Luc au chapitre 9. C'est lui, Simon, qui a su si bien répondre, inspiré qu'il était par l'Esprit Saint, à la question que Jésus a posée auparavant à tous. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme. Ensemble, ils ont dit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Seul Simon s'est écrié, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce sur quoi il entend le maître lui déclarer, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus d'ajouter, eh bien moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Pierre a-t-il saisi alors toute la portée de cette mission qui vient de lui être confiée par Jésus? On peut se poser la question. D'autant qu'un peu plus tard, lorsque le Seigneur annonce pour la première fois à ses amis qu'il lui faut aller à Jérusalem pour souffrir sa passion, y être tué et le troisième jour ressuscité, nous dit saint Matthieu, Pierre s'écrie, « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. » Ce qu'il lui faut immédiatement, la remarque cinglante du Maître, « Passe derrière moi, Satan. » Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ces épisodes nous aident à mettre de nouveau en perspective la réaction du même apôtre lorsqu'il voit Jésus se lever de table, déposer son vêtement, prendre un linge qu'il se noue à la ceinture, verser de l'eau dans un bassin, et commencer à laver les pieds de ses disciples. Apparemment, il n'est pas le premier à se faire laver les pieds. Mais lorsque le maître arrive jusqu'à lui, il s'écrie de la même façon qu'il l'avait déjà fait, à la perspective de le voir endurer sa passion, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !» L'apôtre est tellement conscient de son indignité qu'il ne peut supporter que Jésus s'abaisse ainsi à son égard. Mais voici que ce dernier prononce une parole qui l'ébranle profondément. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre comprend alors qu'il risque de perdre cette unité, cette communion profonde avec Jésus qu'il désire de tout son être. Et c'est pourquoi il s'exclame avec sa fougue coutumière « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Nous pouvons manifestement découvrir, à travers ces réactions successives de l'apôtre Pierre, non seulement la manifestation d'un tempérament particulièrement vif, voire excessif, mais aussi le risque encouru par lui de ne pas pouvoir finalement supporter, de voir le maître arrêté, flagellé, jugé indignement, et pour finir, mise à mort, et qui plus est, mise à mort sur une croix, comme un esclave. Jésus lui déclare qu'il est pour l'instant pur, de même que les autres apôtres, sauf celui qui s'apprête à le trahir, Judas, dont le psaume 41, au verset 10, cité par Jésus peu après ce passage, annonçait prophétiquement la trahison. « Celui qui mange mon pain » a levé contre moi son talon. Pour autant, comme tous, à l'exception de Jean, Pierre fuira après avoir renié son maître, ainsi que ce dernier le lui avait prédit. On le voit un peu plus loin dans le même chapitre 13 de saint Jean. Tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Matthieu et Marc rapportent la même parole de Jésus, mais ils ajoutent aussitôt que Pierre reprend encore la parole. « Dussé-je mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et il précise ce que Jean ne fait pas, et tous les disciples en dirent autant, soulignant ainsi la commune culpabilité de l'humanité pécheresse de nous tous, avant que le sacrifice sanglant du Christ ne la sauve. Comme nous le savons, il paraît remarquable que saint Jean, à la différence des trois autres évangélistes, ne mentionne pas explicitement l'institution de l'Eucharistie, alors qu'il donne néanmoins une bouchée de pain trempée dans du vin à Judas, et qu'il soit manifestement en train de célébrer le repas rituel de la Pâque, le Seder Shel Pessah, dont le frère Jean-Claude nous a tout à l'heure, au cours du repas, rappelé les diverses étapes, les diverses bénédictions. Nous pouvons aussi constater, en relisant le chapitre 6, consacré au pain de vie, nous pouvons constater à quel point il était important pour le Seigneur d'inviter ses disciples à manger son corps et boire son sang. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. En réalité, en annonçant très solennellement le lavement des pieds avec cette emphase qui caractérise les trois premiers versets du chapitre, Jean veut souligner la pleine conscience que le Seigneur a de l'importance de ce premier moment de la Passion et bien sûr de la Passion tout entière. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Le lavement des pieds souligne le sens ultime de la Passion. C'est l'amour infini du Père que le sacrifice du Fils révèle aux hommes. Et c'est en suivant fidèlement l'exemple du Fils que les disciples pourront eux-mêmes se manifester les uns aux autres l'amour dont ils sont aimés. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, comme je fais pour vous. Les disciples sont donc appelés à être serviteurs les uns des autres, en adoptant la même attitude que le Christ, le seul vrai serviteur, a eu à leur endroit. Soyons sûrs que les apôtres et les disciples connaissaient très bien le récit de la Pâque que nous livrent les textes de l'Exode dont nous avons entendu un extrait en première lecture. Ils entendaient à chaque fois que, comme tous leurs compatriotes, ils célébraient la Pâque, ce jour de mémorial que Moïse, de la part de Dieu, leur avait prescrit. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Ce mémorial était celui de l'ancienne alliance que l'Éternel avait conclue avec son peuple. Mais lors du dernier repas de Jésus avec les siens, c'était maintenant une nouvelle alliance qui était célébrée, comme nous le rappelle sombrement saint Paul dans son récit de l'institution que nous avons entendu en seconde lecture. Il le répète à l'instar des trois évangiles de synoptique. « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Puis, cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Saint Paul prend soin de souligner ces deux mots « chaque fois ». Ils veulent clairement signifier que chaque célébration eucharistique est, certes, un mémorial du dernier repas, mais qu'elle est bien plus encore. C'est une actualisation et une prolongation du Saint Sacrifice du Christ. Actualisation et prolongation dans laquelle il est à la fois le prêtre qui offre et l'offrande offerte une fois pour toutes. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'affirme avec force au chapitre 10, versets 11 à 14. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui, au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la gloire de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds, car, par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Et par suite, par conséquent, chaque Eucharistie hâte le retour du Christ, un retour que le Sauveur lui-même attend. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Demandons à l'Esprit Saint, dans la suite de cette célébration, et tout au long de ces trois jours saints et au-delà, demandons-lui d'avoir pleine conscience de ce qui s'est accompli. La descente de l'Esprit sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent véritablement le corps et le sang du Christ, puis la descente de ce même Esprit sur notre assemblée, pour qu'elle devienne le corps dont le Christ est la tête. Cette double épiclèse, qui parfois n'est pas suffisamment soulignée dans nos églises occidentales, alors que les orientaux sont beaucoup plus clairs là-dessus, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et que tu sois tout en tous. Amen.